Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous écoutez La Voix d'Indonésie en français. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir pour cette petite heure de programme dédiée à l'Indonésie. Le sommaire aujourd'hui est le journal, le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, voici le journal d'aujourd'hui. Premièrement, le titre de l'actualité. Le président Jokowi discute des chariots avec le Sri Lanka au Japon. Le gouvernement encourage la socialisation sur sans visa. Le Japon veut construire le port à Subang et le train Jakarta-Surabaya. Conférence internationale des médias islamiques a publié la déclaration de Jakarta. Le gouvernement indonésien cible la visite de 2,1 millions de touristes de la Chine. Le président indonésien espère que l'investissement de manufactures du Japon augmente. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo et le président de la République socialiste démocratique Sri Lanka, Maithripala Sirisena, se sont concentrés à discuter l'achat de voitures de train à Nagoya au Japon au milieu d'une visite au Japon pour assister au sommet G7 Autriche. Le président Joko Widodo s'est concentré à discuter de deux choses, à savoir la volonté de l'Indonésie pour soutenir le développement économique, y compris le partenariat de l'approvisionnement des chariots de passagers et de marchandises et la coopération dans le contexte de Indian Ocean Rim Association, IORA. Cependant, le président Maithripala Sirisena a affirmé l'importance des deux pays d'améliorer la coopération économique et il a souhaité l'ouverture des vols Garuda Indonesia à destination de la capitale de Sri Lanka, Colombo. En ce qui concerne la coopération de projets pour se procurer des voitures de passagers et des marchandises, le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie est prête à discuter du régime de paiement par l'intermédiaire de la banque Exim. Dans le contexte de la coopération IORA, le président Joko Widodo a souhaité le soutien de Sri Lanka pendant la présidence de l'Indonésie dans IORA. En tant que marché potentiel pour la promotion touristique, le gouvernement d'Indonésie encourage la socialisation de la mesure sans visa au peuple chinois et le chef de la division du voyage touristique d'introduction du marché de l'Asie-Pacifique du ministère indonésien du tourisme Taufik Nur Hidayat a dit le jeudi dernier à Bali, la mesure sans visa doit être profitée par le peuple chinois car elle facilite la visite à l'Indonésie. La socialisation sans visa devrait être profitée par eux parce que maintenant, à venir en Indonésie, ils ne sont plus besoin de s'occuper d'un visa à l'ambassade ou au consulat général de la République d'Indonésie. Parce que parfois, leurs maisons ou villages sont plus proches de l'Indonésie qu'ils devaient prendre soin de visa à Beijing. Shanghai ou Guangzhou. Donc, ils simplement précipitèrent en transportant les marchandises, puis un visa a été libre pour les touristes pendant 30 jours. De plus, Taufik Nur Hidayat a expliqué qu'à présent, Bali est toujours destination touristique favori des touristes chinois. En général, les touristes chinois aiment les voyages et les sports nautiques à Bali. En outre, les touristes étrangers en provenance de la Chine ont également bénéficié d'une richesse de tourisme culinaire en Indonésie. Taufik Nur Hidayat a ajouté, dans son développement, Bali est aussi une destination de prédilection pour les touristes chinois qui veulent profiter d'une lune de miel en Indonésie. Le gouvernement japonais a offert le gouvernement indonésien pour construire deux projets, à savoir le port Patimban à Subang et le train Jakarta-Surabaya. Le secrétaire du cabinet Pramono Anung a expliqué que pour le projet du port Patimban, le Japon avait communiqué avec le ministère des Transports. Pendant ce temps, le projet dure, le train Jakarta-Surabaya est dans le processus. Pramono Anung a réitéré que le gouvernement indonésien avait bien accepté la volonté du gouvernement japonais. Il a ajouté que le projet du train Jakarta-Surabaya serait discuté par le président Joko Widodo dans son voyage au Japon le jeudi au vendredi 28 mai 2016. La Conférence internationale des médias islamiques, ICIM, a eu lieu à Jakarta du 25 au 26 mai 2016 et participé par les médias de 50 pays qui visent à soutenir la lutte mondiale pour l'indépendance palestinienne à travers les médias, a publié une déclaration de Jakarta. La conférence a approuvé la consolidation des médias islam parmi les nations, a déclaré le président d'UMAPIM, soit l'Organisation du Conseil islamique consultatif malaisien, Mohamed Azmi Abdul Hamid, quand il a lu la déclaration de Jakarta à Wisma Antara, Jakarta, jeudi. En général, le point de la déclaration est une tentative de continuer la lutte pour l'indépendance de la Palestine et d'Al-Quds, en particulier à travers les médias de masse. On estime que cette conférence sera un moyen efficace pour soutenir la Palestine selon les résultats du sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique à Jakarta du 6 au 7 mars 2016. Selon le président du comité directeur de ICIM, Yashallah Mansour, il y a deux choses comme les résultats de la conférence internationale. Premièrement, renforcer l'image de l'islam comme une religion de miséricorde pour tous les mondes à travers les médias. Deuxièmement, de défendre la question palestinienne qui est de plus en plus étouffée par d'autres questions telles que le printemps d'Arabe et les conflits dans les pays islamiques. Le gouvernement indonésien a souhaité que les objectifs des touristes de la Chine visitant l'Indonésie en 2016 pourraient atteindre 2,1 millions de touristes. Cela a été affirmé par le chef chargé du voyage touristique de l'introduction des marchés de l'Asie-Pacifique du ministère indonésien du tourisme, Taufik Nur Hidayat, après avoir accueilli les participants de la conférence Demway en provenance de Chine jeudi à Bali. Il a dit que l'Indonésie était ouverte pour la visite de la communauté étrangère qui veut visiter l'Indonésie. Le gouvernement indonésien considère que la Chine est un marché potentiel pour le développement du tourisme en Indonésie.
Tahun 2015 lalu sudah bisa mencapai
en 2015 peut atteindre 1,3 million de touristes en provenance de Chine et l'objectif de 2,1 million de cette année devrait être dépassé. Taufik Nur Hidayat a expliqué que pour atteindre l'objectif de touristes étrangers en provenance de Chine à venir en Indonésie, le gouvernement prévoyait d'ouvrir un de vols directs la Chine d'Indonésie. En outre, le gouvernement, dans un proche avenir, va augmenter le nombre de formations des guides avec la langue chinoise pour ajouter la facilité des touristes chinois de profiter du tourisme en Indonésie. Le président Joko Widodo espère l'augmentation des investissements de la préfecture d'Haïti au Japon vers l'Indonésie, en particulier dans les domaines de l'industrie et de manufacture. Le premier ordre du jour du président Joko Widodo à Nagoya au Japon a été fermé par la réception d'une visite de courtoisie du gouverneur de la préfecture d'Haïti, Hideaki Ohmura, à Nagoya au Japon, jeudi soir. À cette réunion, le président Joko Widodo a bien accepté la coopération dans le domaine de l'éducation entre l'université préfectorale et l'université Gadjah Mada Yogyakarta, qui a été convenue lors de la visite du gouverneur Ohmura en Indonésie du 18 au 23 octobre 2015, en émanant la délégation économique et éducative. Pendant ce temps, le gouverneur d'Haïti déclarait que les investissements d'Haïti en Indonésie au cours des 5 dernières années ont augmenté doublement. Le nombre de citoyens indonésiens dans la préfecture d'Haïti est également assez grand, près de 4 000 personnes, de sorte que les relations entre les deux communautés peuvent être intensifiées également. Il espère aussi que la compagnie aérienne Garuda Indonesia peut ouvrir le vol direct à Nagoya. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Sixième longtemps, voici donc le commentaire ayant pour le titre Le sommet humanitaire. Au moins 60 millions de personnes chaque année doivent quitter leur pays et des maisons pour éviter les conflits dans leur lieu de naissance. De la vague de l'exode, les Nations Unies estiment qu'au moins 130 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ou UNHCR, n'est pas pleinement en mesure de résoudre le problème des réfugiés. Ainsi, pour la première fois, l'ONU soutient la mise en œuvre du sommet mondial humanitaire à Istanbul, en Turquie. Environ 125 chefs d'État et des représentants du gouvernement ont participé au sommet qui a débuté le 23 mai. La Turquie a l'intérêt d'être le hôte parce que ce pays est dans la frontière de l'Asie et de l'Europe qu'actuellement sont très occupés d'accueillir et de prendre soin d'au moins 2,7 millions de réfugiés en provenance de Syrie. Malgré il y a des fortes critiques des organisations non gouvernementales engagées dans le traitement des réfugiés, le sommet a été débuté en appelant conjointement pour résoudre les problèmes des réfugiés et la racine de cause. Le sommet a pris fin mercredi en recommandant des procédures concrètes pour faire face à la crise des réfugiés à l'avenir. Un certain nombre de chefs d'État également fait appel pour un meilleur système humanitaire, en particulier pour les réfugiés. Pour certains pays, le sommet humanitaire était attendu depuis longtemps et prévu. Par ailleurs, l'exode des réfugiés, en particulier de la Syrie, est un impact concret d'une guerre civile sans fin. Espérons que le sommet devrait réaliser l'engagement mondial pour résoudre ce problème humanitaire. En effet, les efforts pour faire face au flux de migrants ne doivent ni à la charge de premiers pays visités, ni le UNHCR. Les pays développés qui ont la stabilité économique sont également tenus de fournir une assistance humanitaire. En plus de l'aide humanitaire, un autre point important est le conflit dans plusieurs pays du Moyen-Orient et certaines régions d'Afrique peuvent être terminées. Ainsi, les causes profondes du conflit au Moyen-Orient doivent être trouvées et résolues bientôt. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de Mizi à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la rubrique de l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons avec le 27 mai 1937, le pont Golden Gate était ouvert. Le pont Golden Gate est un pont suspendu le long de Golden Gate, une ouverture de l'océan Pacifique dans le golfe de San Francisco. Ce pont relie la ville San Francisco en Californie, dans la péninsule San Francisco et la région Marin en Californie. La longueur du pont est 2727 mètres. La distance entre la tour est 1280 mètres et une hauteur de 230 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Ce pont est le produit de Joseph Strauss, un technicien qui est responsable de plus de 400 photos du pont. Strauss a passé plus d'une décennie pour obtenir le soutien dans le nord de la Californie. Ensuite, le 27 mai 1964, le premier ministre de l'Inde, Jawaharlal Nehru, est décédé. Jawaharlal Nehru est le premier homme d'État indien. Il est une figure de premier plan dans le mouvement de l'indépendance indienne. Nehru a été élu par le Parti du Congrès pour assumer le premier poste de premier ministre indépendant de l'Inde et a été réélu lorsque le Parti du Congrès a remporté la première élection générale de l'Inde en 1952. En tant que l'un des fondateurs du mouvement des non-alignés, Nehru était aussi un personnage clé dans la politique internationale dans l'ère post-guerre. Le fils d'un avocat et homme politique riche de l'Inde, Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru est devenu un chef de file de l'aile gauche du Congrès national indien quand il était assez jeune. L'augmentation dans les rangs pour devenir président du Congrès sous la direction de Mahatma Gandhi, Nehru était un leader charismatique et un radical, prônant l'indépendance complète de l'Empire britannique. Dans la longue lutte pour l'indépendance de l'Inde, il est devenu le gardien. Nehru a finalement été reconnu comme héritier politique de Gandhi. Le 27 mai 1964, Jawaharlal Nehru est mort d'une maladie. Nous terminons avec le 27 mai 2006. Le tremblement de terre à 5,9 échelle Richter a frappé Yogyakarta et Java Central. Le tremblement de terre Yogyakarta le mai 2006 était celui tectonique fort qui a frappé Yogyakarta et Java Central le 27 mai 2006 à 55 temps de l'Indonésie Ouest. Le tremblement de terre, selon l'Agence géologique du ministère de l'Énergie et des ressources minérales de la République d'Indonésie, s'est passé dans les coordonnées 8,007 de latitude sud et 110,286 degrés de longitude est à une profondeur de 17,1 km. En général, la position du tremblement de terre était environ 25 km sud-sud-ouest de Yogyakarta, à 115 km au sud de Semarang. Bien que l'épicentre soit dans la mer, mais il n'a pas donné lieu à un tsunami. Le tremblement de terre a été ressenti à Solo, Semarang, Purworejo, Kebumen et Banyumas. Même le tremblement pourrait également se faire sentir à plusieurs villes dans la province de Java-Est, comme Ngawi, Madiun, Kediri, Trenggalek, Magetan, Pacitan, Blitar et Surabaya. En conséquence du tremblement de terre, plusieurs 6234 personnes sont mortes. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Et après, nous vous présentons la mise au point et le rappel des titres de l'actualité.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point. Et pour le titre, le gouvernement indonésien a publié le règlement du gouvernement remplaçant de la loi sur la protection de l'enfance. Afin de réduire le nombre de violences contre les enfants dans le pays, le président Joko Widodo a signé officiellement le mercredi 25 mai 2016 le règlement du gouvernement remplaçant de la loi au PERPU numéro 1 de 2016 sur le deuxième amendement de la loi numéro 23-2002 sur la protection des enfants. À travers la réglementation, il y aura des peines plus graves pour les auteurs de crimes sexuels contre des enfants, à savoir un tiers supplémentaire de sanctions pénales à imposer la peine de mort, la réclusion à perpétuité ou l'emprisonnement d'un minimum de 10 ans et maximum de 20 ans. En outre, il y a la peine supplémentaire en annonçant l'identité des auteurs, la castration chimique et la mise en dispositif de détection électronique. Les articles additionnels fourniront un espace pour le juge de décider des peines plus sévères pour les auteurs de crimes sexuels contre les enfants. Le président Joko Widodo, lors d'annoncer le PERPU au Palais Merdeka à Jakarta, cité par le secrétaire du cabinet, a déclaré que les abus sexuels contre les enfants est un crime extraordinaire, car il peut menacer et mettre en danger la vie des enfants. Donc, il doit être manipulé avec des moyens extraordinaires. Les infractions sexuelles nuisent absolument la vie personnelle et la croissance des enfants, ainsi que déranger le confort, la tranquillité, la sécurité et l'ordre public. Par conséquent, le règlement du gouvernement remplaçant de la loi gère la pondération du crime pour les auteurs de violences sexuelles contre les enfants et les abus sexuels avec certaines conditions. La ministre indonésienne de la loi et des droits de l'homme, Yasona Lauli, dit « Bien que le règlement remplaçant de la loi ou PERPU vienne d'être signé par le président Joko Widodo récemment, le PERPU sur la protection des enfants entre en vigueur automatiquement cette fois. Cependant, le gouvernement va immédiatement envoyer le PERPU au Parlement pour la ratification d'être la loi. Pendant ce temps, le vice-président de la Commission 8 du Parlement, Abdul Malik Haramain, apprécie l'application du règlement gouvernemental remplaçant la loi sur la protection de l'enfance. Il a estimé que des peines plus sévères dans le PERPU couvraient la peine de mort maximale et des sanctions supplémentaires sous la forme d'un engrais et une amende jusqu'à 5 milliards rupiah. Espérons que ce sera un effet dissuasif et ne viole pas les droits de l'homme, parce que toutes les punitions sont créées par un processus juridique dans la cour. L'opinion similaire est également exprimée par la Commission de protection de l'enfance indonésienne, KPAI. Le commissaire de KPAI, Erlinda, comme cité par RRI, apprécie la publication du règlement du gouvernement remplaçant de la loi sur la protection des enfants. Selon elle, la communauté espère des mesures concrètes pour l'adoption de Perpu, comme la mise en œuvre du programme de protection sur l'aspect préventif et l'aspect de manipulation des cas. Serge Ritard, c'est la mise au point pour ce soir.
Le président Joko Widodo et le président de la République socialiste démocratique Sri Lanka, Maithripala Sirisena, se sont concentrés à discuter l'achat de voitures de train à Nagoya au Japon, au milieu d'une visite au Japon pour assister au sommet G7 Autriche. Le président Joko Widodo s'est concentré à discuter de deux choses, à savoir la volonté de l'Indonésie pour soutenir le développement économique, y compris le partenariat de l'approvisionnement des chariots de passagers et de marchandises, et la coopération dans le contexte de Indian Ocean Rim Association, IORA. Cependant, le président Maithripala Sirisena a affirmé l'importance des deux pays d'améliorer la coopération économique et il a souhaité l'ouverture des vols Garuda Indonesia à destination de la capitale de Sri Lanka, Colombo. En ce qui concerne la coopération de projets pour se procurer des voitures de passagers et des marchandises, le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie est prête à discuter du régime de paiement par l'intermédiaire de la banque Exim. Dans le contexte de la coopération IORA, le président Joko Widodo a souhaité le soutien de Sri Lanka pendant la présidence de l'Indonésie dans IORA. En tant que marché potentiel pour la promotion touristique, le gouvernement d'Indonésie encourage la socialisation de la mesure sans visa au peuple chinois et le chef de la division du voyage touristique d'introduction du marché de l'Asie-Pacifique du ministère indonésien du tourisme Taufik Nur Hidayat a dit le jeudi dernier à Bali, la mesure sans visa doit être profitée par le peuple chinois car elle facilite la visite à l'Indonésie. La socialisation sans visa devrait être profitée par eux. Parce que maintenant, à venir en Indonésie, ils ne sont plus besoin de s'occuper d'un visa à l'ambassade ou au consulat général de la République d'Indonésie. Parce que parfois, leurs maisons ou villages sont plus proches de l'Indonésie qu'ils devaient prendre soin de visa à Beijing, Shanghai ou Guangzhou. Donc, ils simplement précipitèrent en transportant les marchandises, puis un visa a été libre pour les touristes pendant 30 jours. De plus, Taufik Nur Hidayat a expliqué qu'à présent, Bali est toujours destination touristique favori des touristes chinois. En général, les touristes chinois aiment les voyages et les sports nautiques à Bali. En outre, les touristes étrangers en provenance de la Chine ont également bénéficié d'une richesse de tourisme culinaire en Indonésie. Taufik Nur Hidayat a ajouté, dans son développement, Bali est aussi une destination de prédilection pour les touristes chinois qui veulent profiter d'une lune de miel en Indonésie. Le gouvernement japonais a offert le gouvernement indonésien pour construire deux projets, à savoir le port Patimban à Subang et le train Jakarta-Surabaya. Le secrétaire du cabinet Pramono Anung a expliqué que pour le projet du port Patimban, le Japon avait communiqué avec le ministère des Transports. Pendant ce temps, le projet DUR, le train Jakarta-Surabaya, est dans le processus. Pramono Anung a réitéré que le gouvernement indonésien avait bien accepté la volonté du gouvernement japonais. Il a ajouté que le projet du train Jakarta-Surabaya serait discuté par le président Joko Widodo dans son voyage au Japon le jeudi au vendredi 28 mai 2016. La Conférence internationale des médias islamiques, ICIM, a eu lieu à Jakarta du 25 au 26 mai 2016 et participée par les médias de 50 pays qui visent à soutenir la lutte mondiale pour l'indépendance palestinienne à travers les médias, a publié une déclaration de Jakarta. La conférence a approuvé la consolidation des médias islam parmi les nations, a déclaré le président d'UMAPIM, soit l'organisation du Conseil islamique consultatif malaisien, Mohamed Azmi Abdul Hamid, quand il a lu la déclaration de Jakarta à Wisma Antara, Jakarta, jeudi. En général, le point de la déclaration est une tentative de continuer la lutte pour l'indépendance de la Palestine et d'Al-Quds, en particulier à travers les médias de masse. On estime que cette conférence sera un moyen efficace pour soutenir la Palestine selon les résultats du sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique à Jakarta du 6 au 7 mars 2016. Selon le président du comité directeur de ICIM, Yashallah Mansour, il y a deux choses comme les résultats de la conférence internationale. Premièrement, renforcer l'image de l'islam comme une religion de miséricorde pour tout le monde à travers les médias. Deuxièmement, de défendre la question palestinienne qui est de plus en plus étouffée par d'autres questions telles que le printemps d'Arabe et les conflits dans les pays islamiques. Le gouvernement indonésien a souhaité que les objectifs des touristes de la Chine visitant l'Indonésie en 2016 pourraient atteindre 2,1 millions de touristes. Cela a été affirmé par le chef chargé du voyage touristique de l'introduction des marchés de l'Asie-Pacifique du ministère indonésien du tourisme, Taufik Nur Hidayat, après avoir accueilli les participants de la conférence d'Emway en provenance de Chine jeudi à Bali. Il a dit que l'Indonésie était ouverte pour la visite de la communauté étrangère qui veut visiter l'Indonésie. Le gouvernement indonésien considère que la Chine est un marché potentiel pour le développement du tourisme en Indonésie.
Tahun 2015 lalu sudah bisa mencapai
en 2015 peut atteindre 1,3 million de touristes en provenance de Chine et l'objectif de 2,1 million de cette année devrait être dépassé. Taufik Nur Hidayat a expliqué que pour atteindre l'objectif de touristes étrangers en provenance de Chine à venir en Indonésie, le gouvernement prévoyait d'ouvrir un de vol direct la Chine d'Indonésie. En outre, le gouvernement, dans un proche avenir, va augmenter le nombre de formations des guides avec la langue chinoise pour ajouter la facilité des touristes chinois de profiter du tourisme en Indonésie. Le président Joko Widodo espère l'augmentation des investissements de la préfecture d'Haïti au Japon vers l'Indonésie, en particulier dans les domaines de l'industrie et de la manufacture. Le premier ordre du jour du président Joko Widodo à Nagoya au Japon a été fermé par la réception d'une visite de courtoisie du gouverneur de la préfecture d'Haïti, Hideaki Ohmura, à Nagoya au Japon, jeudi soir. À cette réunion, le président Joko Widodo a bien accepté la coopération dans le domaine de l'éducation entre l'université préfectorale et l'université Gadjah Mada Yogyakarta qui a été convenue lors de la visite du gouverneur Ohmura en Indonésie du 18 au 23 octobre 2015, en émanant la délégation économique et éducative. Pendant ce temps, le gouverneur d'Haïti déclarait que les investissements d'Haïti en Indonésie au cours des 5 dernières années ont augmenté doublement. Le nombre de citoyens indonésiens dans la préfecture d'Haïti est également assez grand, près de 4000 personnes, de sorte que les relations entre les deux communautés peuvent être intensifiées également. Il espère aussi que la compagnie aérienne Garuda Indonesia peut ouvrir le vol direct à Nagoya. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chères auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique du magazine culturel. Et ce soir, nous vous introduisons la nourriture Gombiang Manyung de la ville Indramayu. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la Voix d'Indonésie. Indramayu est une région à Java West. Cette ville est une escale pour les personnes qui veulent rentrer chez eux après l'Aïd, car Indramayu est située sur la route côtière du Nord, qui est la ligne principale et la plus peuplée de Java. Outre comme un lieu d'escale, en fait Indramayu est aussi destination touristique parce que le quartier a beaucoup de destinations touristiques intéressantes, en particulier les sites touristiques marins. Beaucoup de belles plages à Indramayu comme l'île Biawak, plage Tirtamaya, plage Balongan Indah et d'autres tourismes côtiers. Voyager à Indramayu est moins complète si vous ne goûtez pas ces diverses nourritures spécifiques, en particulier les fruits de mer, parce que le quartier est situé sur la côte. Un des repas de mer typiques d'Indramayu que vous devez essayer est Gombiang Manyung. Gombiang Manyung a la matière première de tête de poisson Manyung, qui sont si abondants à Indramayu. Et d'habitude, le poisson Manyung est uniquement pris sa viande pour les poissons salés, tandis que sa tête est vendue au prix bon marché ou même jetée. Par les travailleurs ou les pêcheurs, ces têtes sont puis transformées en plats traditionnels qui sont devenus connus comme Gombiang Manyung. Ce plat est habituellement cuit quand la saison sèche arrive, quand les captures de poissons diminue. Au début, ce culinaire est seulement culinaire de la maison, mais à cause de la délicatesse et de l'unicité, ces aliments deviennent la nourriture typique unique, très recherchée par les touristes. Le mot Gombiang se réfère à la sauce abondante, car le poisson est cuit comme un ragoût avec sauce de poisson trempache. Avant la cuisson, le poisson magnon est d'abord nettoyé, en particulier le mucus dans les branchies, afin de n'être pas louche. Après diviser en deux et nettoyer, le poisson est cuit pendant 2 heures avec les dispositions de l'eau et changé 2 fois pour éliminer l'arôme louche. Après cela, mélangez avec des épices telles que les feuilles de laurier, la citronnelle, le curcuma, l'oignon, l'ail, le poivre de Cayenne et le sel. Les poissons sont bouillis jusqu'à ce que la peau et la viande soient séparées de l'eau. Une fois cuit, le poisson est placé au-dessus du bol avec la sauce abondante. Au-dessus de la tête du poisson, mettez des tranches de tomates et d'oignons verts tranchés. Sentez l'odeur du poisson immédiatement. Le goût délicieux du bouillon de poisson combiné avec des herbes et des épices promet la délicatesse typique. Il y a aussi un peu de douceur. Il est difficile de chasser ce menu culinaire à Indramayu. Presque le long de la côte nord, des boutiques et des restaurants présentent le menu antique. Il en coûte environ 20 000 à 35 000 rupiah par portion. Chers amis, c'était la rubrique du magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Sergi Thor, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleurs et en pour titre La République de Café pour la résidence de Bondowoso. Il y a une nouvelle république en Indonésie. Son nom est la République du Café. Bien sûr, cela est encore dans le couloir de la République unitaire d'Indonésie. La République du Café a été lancée à Bondowoso, en province de Java. Qu'est-ce que et comment la République du Café? La réponse peut être trouvée dans le thème de l'Indonésie en couleur pour ce soir. Serditor, Bondowoso est une résidence dans la province de Java Est, en Indonésie, avec sa capitale Bondowoso. Bondowoso est la seule résidence dans la région de fer à cheval, ne dispose pas d'un littoral. Comme résidence avec beaucoup de cafetières et un grand enthousiasme des gens envers le café, le résident de Bondowoso, Amin Saïd Husni, a déclaré à nouveau la résidence de Bondowoso comme la République du Café. Le nom de la République du Café a été introduit pour la première fois coïncidant avec la réunion de terrain sur le café 2016 organisée par le Centre indonésien des recherches de café et de cacao dans la piloplantation au village Andung Sari, le district de Pakem, le 10 mai 2016. Selon Amin, dans la résidence de Bondowoso, il y a beaucoup de cafetières de l'héritage colonial néerlandais, par exemple les cafetières de Belawan, de Kalisar, de Jampit et de Pancur. Maintenant, ces cafetières gérées par PT Perkebunan Nasional, PT PN12. Depuis l'an 2011, pour aider à améliorer l'économie des producteurs de café qui ont travaillé sur les cafetières en dehors de la terre de PTPN12, le gouvernement de résidence de Bondowoso fait le cluster du café arabica sur les pentes du mont Ijen. Le gouvernement de résidence de Bondowoso a invité le représentant de la Banque d'Indonésie à Jember, le centre indonésien de recherche du café et du cacao, Perhutani, la banque, les exportateurs et les associations de producteurs de café à développer le cluster de café Arabica. Enfin, au cours des 5 dernières années, Bondowoso a exporté du café vers certains pays en Amérique et en Europe et a obtenu une réponse formidable des marchés étrangers. Amine a ajouté, le café Arabica provenant des pentes du mont Ijen Bondowoso a la saveur assez distinctive, car il est produit à partir de montagnes Ijen contenant l'élément de soufre. Serviteurs, si nous regardons ces excellences, ce n'est pas étonnant si la résidence de Bondowoso s'est déclarée comme République du café avec le slogan « Venez boire du café à Bondowoso ». La déclaration « République du café de Bondowoso » vise à attirer la visite des touristes intérieurs et étrangers à Bondowoso, outre d'augmenter le niveau de vie des paysans. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Indonésie. Voici la rubrique musicale. Cette fois, je vais vous présenter des chansons de dangdut qui existent en Indonésie dans les années 1940. On écoutera la première chanson chantée par Elia Kadam. Bonne écoute. Le dangdut est l'un des genres musicaux en Indonésie qui existe en Indonésie dans les années 1940. Il est enraciné de la musique qasida apportée par l'islam en Indonésie en 635 jusqu'à 1600. Ensuite, il devient une musique de gambus en 1930, popularisée par Cheikh Albar et développée comme musique Malay Delhi en 1940 par Hussein Bawafi. En 1950, la musique dangdut a été influencée par la musique latino-américaine et en 1954, influencée par le film de Bollywood, popularisé par Elia Kadam avec une chanson intitulée « Poupée de langue ». Des chansons de dangdut sont plus célèbres en 1968 chantées par Roma Irama. Le dangdut célébré de plus en plus dans les années 1970, présenté par le groupe de musique Soneta, dirigé par Roma Irama, connu comme Raja Dangdut ou le Roi du Dangdut. Elvy Sukaisi comme la reine de dangdut. Le dangdut est plus populaire, notamment parmi les gens marginalisés. Il est aussi influencé par d'autres musiques, à savoir la musique de Kroncong, la gamme rock, pop et même house music. Bon, chers amis, voici une chanson intitulée Adu Domba, composée par Roma Irama. Bonne écoute.
Adu domba, adu domba, mengadu domba, domba di perang.
Sixième antenne, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec la musique de Dangdut. La musique Dangdut est également bien connue dans les pays étrangers tels que la Malaisie, Singapour, dans certains pays européens, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Pays-Bas. Il peut arriver en raison de plusieurs facteurs tels que les paroles de musique de Dangdut sont uniques et faciles à comprendre. Le Dangdut est la musique folklorique. Bon, chers amis, avant de terminer cette rubrique, on écoutera deux chansons intitulées « Gula Gula ». Bonne écoute. Auditrice et serviteur, c'était le magazine musical de la Voix de Nizi à Jakarta. Ainsi, nous terminons notre émission pour ce soir. Au revoir à tous, on se retrouve demain, même heure et même fréquence.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.